Europe 1, il est 7h.
L'ambiance, elle n'est pas la même par rapport à d'habitude. Moi, je suis venue plusieurs années, même costumée. On a des masques, mais on voit que c'est plutôt les masques des balles privées, des habitués de Venise.
L'Italie, frappée de plein fouet par l'épidémie de coronavirus. En quelques jours, le pays est passé de 6 à plus de 150 cas, 3 décès. Nous serons à Venise dès le début de ce journal.
Pas d'épidémie en France pour le moment, mais des précautions sont à respecter, nous le verrons. Enfin, nous ferons le point sur l'impact économique du virus.
Il est très important pour nous de réouvrir les usines, même si elles fonctionnent aujourd'hui à un niveau d'activité faible. Dans les 1, 2, 3 semaines qui viennent, on a les choses sous contrôle.
Alors que les débats sont toujours paralysés à l'Assemblée nationale sur la réforme des retraites, le gouvernement va-t-il utiliser le 49-3 ? La réponse dans ce journal de Mickaël Darmon. Le coût des traitements contre le cancer a explosé ces dernières années. Le cancérologue David Kayat tire la sonnette d'alarme. Il sera notre invité.
Dans ce journal aussi, le décès d'Hervé Bourges, grande figure des médias. Nous reviendrons sur son parcours.
Et puis cet exploit d'Edinson Cavani hier lors de la 26e journée de Ligue 1. L'attaquant parisien a marqué son 200e but.
Ah, c'est spécial. C'est un moment que tu sens, que tu rappelles un peu les kilomètres qui sont derrière les 200 buts. C'est un moment magnifique pour moi.
Et après 200 buts, il parle enfin français. 7h01 sur Europe 1. Très bon réveil à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal Mathieu Béliard, Carole Ferry. Le coronavirus est désormais bien présent en Europe. L'épidémie touche de plein fouet l'Italie, où le nombre de malades a explosé en quelques jours, passant de 6 à plus de 150. 3 personnes sont décédées.
Et le pays tente par tous les moyens de contenir le virus. 11 villes ont été placées en quarantaine dans la région de Milan. Toutes les entrées et sorties sont interdites, sauf dérogation.
À Venise, le carnaval a dû baisser le rideau plus tôt que prévu, dès hier au lieu de demain. Mathieu Bock, vous êtes notre envoyé spécial sur place et depuis votre arrivée, vous pouvez le constater, les rues sont totalement vides.
Eh oui, à côté des gondoles qui sont restées à quai, beaucoup de touristes quittent la ville en tirant leurs valises. Ce n'est pas un masque vénitien qu'ils portent sur le visage, mais un masque de protection. Une ambiance lourde pour ces Françaises, par exemple, venues spécialement pour le carnaval.
Oui, l'ambiance, elle n'est pas la même par rapport à d'habitude. Moi, je suis venue plusieurs années, même costumée. On a des masques, mais on voit que c'est plutôt les masques des balles privées, des habitués de Venise.
Du coup, un petit peu déçu d'apprendre là notre arrivée, qu'il n'y aura sûrement pas, du coup. On va se renseigner en espérant quand même au moins croiser des personnes bien habillés, masqués, et on verra bien.
Alors pour les professionnels, cette annulation est une nouvelle catastrophe, explique Luigi, le gérant de l'hôtel Bellini.
Déjà en novembre, on avait eu beaucoup d'annulations à cause des inondations. Et maintenant, avec ce problème de coronavirus, on a encore beaucoup de gens qui ne viennent pas. On a moins 40, moins 45% de chiffre d'affaires jusqu'à la fin de la semaine.
Mais le carnaval n'est pas le seul touché. Les écoles de la région sont fermées pendant une semaine et les rencontres sportives ont toutes été annulées.
Thieu Bock, vous étiez en direct de Venise pour Europe 1.
Cette proximité de l'Italie inquiète bien sûr en France, même si le nouveau ministre de la Santé, Olivier Véran, l'a redit hier, il n'y a pas d'épidémie pour le moment.
Un seul malade reste hospitalisé, mais les autorités se préparent quand même au pire. Des milliers de laboratoires sont prêts à analyser des échantillons. 70 hôpitaux, au moins un par département, sont mobilisés pour recevoir d'éventuels malades. Des millions de masques ont été commandés et chacun est invité, bien entendu, à respecter les consignes pour éviter la propagation du virus. Nicolas Feldman.
La meilleure façon de se protéger et de protéger son entourage, c'est d'adopter ce que l'OMS appelle une série de gestes barrières. Se laver les mains consciencieusement, se couvrir la bouche ou le nez si vous toussez ou éternuez et maintenir une distance de sécurité d'un mètre avec des personnes qui vous semblent présenter des symptômes comme de la fièvre, de la toux ou des difficultés respiratoires. Les masques de protection que beaucoup achètent, il faut le rappeler, sont surtout recommandés pour des personnes déjà infectées. Alors dans un autre cas de figure, si vous rentrez d'une des régions touchées par le virus, soyez particulièrement vigilants. Santé publique France vous invite à prendre votre température 2 fois par jour. Et si des symptômes apparaissent, ne vous rendez surtout pas aux urgences ou chez un médecin, mais appelez le centre 15.
En Corée du Sud, en revanche, l'épidémie gagne du terrain avec désormais plus de 700 malades. C'est le foyer le plus touché après la Chine. La Chine où l'impact du coronavirus se fait de plus en plus sentir sur l'économie.
Les usines commencent à redémarrer à travers le pays, mais celles proches de Wuhan, elles, sont toujours fermées.
Par ailleurs, les déplacements sont très limités, ce qui complique la vie de nombreuses entreprises. On fait le point avec vous ce matin, Emmanuel Duteil.
L'un des secteurs particulièrement touchés, c'est l'aérien. Les compagnies parlent d'un manque à gagner de près de 30 milliards d'euros. L'Association internationale du transport aérien redoute même la première baisse mondiale de réservations depuis la crise de 2008-2009. L'automobile aussi est touchée. Le coréen Hyundai a fermé une usine en Corée, faute de pièces en provenance de la Chine. L'équipementier Valeo, qui compte 34 usines en Chine, a pu en rouvrir 32. Seules celles proches de Rouen sont toujours fermées et l'impact, là encore, pourrait se faire sentir, selon Jacques Aschenbroix, le patron de Valeo.
Il était très important pour nous de réouvrir les usines, même si elles fonctionnent aujourd'hui à un niveau d'activité faible. Dans les 1, 2, 3 semaines qui viennent, on a les choses sous contrôle. Mais si les choses ne redevenaient pas, ne redémarraient pas, il pourrait y avoir des problèmes en cascade.
Le luxe est aussi très touché. Le propriétaire d'Yves Saint-Laurent et Gucci parle d'une forte baisse des ventes en Chine. Les grands magasins français sont très impactés. Au meilleur moment, la clientèle chinoise peut représenter jusqu'à 25% des acheteurs des Galeries Lafayette.
Europe 1, il est 7h06.
Les débats restent complètement paralysés à l'Assemblée nationale sur la réforme des retraites. Les députés en étaient toujours à l'article 1 hier, après 7 jours de discussions chaotiques.
Et la grande question maintenant, eh bien, c'est de savoir si le gouvernement va choisir de passer en force en ayant recours au fameux 49-3. Bonjour Michaël Darmon.
Bonjour.
Est-ce qu'ils y pensent vraiment ?
Bah, ils ne pensent qu'à ça. Et ça se prépare d'ailleurs depuis plusieurs jours. D'ailleurs, souvenez-vous, hein, cette idée avait commencé à tourner dès la mi-janvier. Et à l'époque, Nicole Pénicaud s'était exclamée : mais enfin, c'est une idée saugrenue. Depuis, bah, le scénario a bien dérapé. L'article 1 n'est même pas voté et le texte a 40 000 amendements au compteur. Alors, hier, Édouard Philippe s'est joint au dernier moment à un dîner de députés, hein, ceux qui sont de permanence pour mener la bataille de tranchées. Un dîner informel, selon Matignon. Bah, officiellement, évidemment, il fallait sortir les députés, mais il fallait aussi faire taire les reproches d'une partie des mêmes députés qui le trouvaient bien occupé au Havre par sa campagne au Premier ministre. Donc, menu unique, comment sortir de l'impasse, comment dégainer un 49-3 en faisant le moins de dégâts possible alors qu'une partie de cette majorité est réticente à cette solution.
Mais pourquoi ça pose autant de problèmes, Michael, d'avoir recours à ce 49-3 ? Parce que ça permet quand même de faire passer cette réforme.
Bah, le 49-3, c'est prévu par la Constitution, c'est légal, c'est une solution parlementaire, mais c'est une malédiction politique. Elle marque un exécutif au sceau de l'autoritarisme. C'est pour ça qu'il n'y a que des mauvaises solutions pour Emmanuel Macron. Soit le blocage continue à l'Assemblée et la réforme des retraites tourne au carnage politique, soit il donne le feu vert au gouvernement pour le passage en force auprès d'une majorité qui, elle, n'est pas fautive et qui aura du mal à accepter d'être privée de son débat. Réponse donc au Conseil des ministres de mercredi. Au dernier quinquennat, on s'en souvient, un certain ministre Macron avait subi avec colère un 49-3 décidé par Manuel Valls, ruinant ainsi des heures de débat avec les députés sur une loi sur l'économie. Aujourd'hui, le président Macron veut aller vite et il faut tourner la page des retraites. Après la crise des Gilets jaunes, l'acte 2 devait être celui de l'embellie. Aujourd'hui, il lui faut éviter l'embolie.
Michael Darmon, du service politique de la rédaction, et cet article 49, alinéa 3, qui se profile. On va reparler avec Nicolas Bétou. L'opinion de Nicolas Bétou, c'est juste avant le journal de 8h, comme tous les jours.
On l'a appris cette nuit, le décès hier d'Hervé Bourges. Il avait 86 ans. C'est lui qui, pendant des décennies, a marqué l'histoire de la télévision française, Julien Pierce.
Oui, une certaine idée de la télévision, que ce soit à TF1 au début des années 80 ou à France 2 et France 3 au début des années 90. Hervé Bourges n'a eu de cesse de promouvoir ce qu'il appelait une télévision populaire de qualité. En clair, une télé intelligente et regardée, même si tout n'est pas parfait, comme il le reconnaissait en 1993 au micro de Jean-Pierre Elkabbach. Hervé Bourges était alors président de France Télévisions.
On n'est pas parfait, hein. Il y a souvent des émissions qui ne me font pas plaisir personnellement, encore que je ne fasse pas de la télévision pour moi-même.
Vous reprochez d'ailleurs à la télé privée de se lancer dans ce que vous appelez le sordide, le dégradant. Vous ajoutez la télé-Q.
Oui, il n'y a pas que ça, hein. Il y a quand même de bonnes émissions, oui. Même sur les chaînes commerciales, bien sûr, mais c'est vrai que c'est une tendance.
Hervé Bourges fut ensuite président du CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, jusqu'en 2001. Un homme de médias qui, toute sa vie, a entretenu un lien particulier avec l'Afrique, un continent qu'il découvre à l'occasion de son service militaire en Algérie. Après l'indépendance, il deviendra même conseiller auprès du premier président algérien, Ben Bella, un rôle qui lui vaudra d'être emprisonné et torturé après le coup d'État de Boumédienne en 1965. Homme de médias, homme de pouvoir, Hervé Bourges a été l'un des acteurs de deux histoires françaises du XXe siècle, la France-Afrique et les transformations du paysage audiovisuel français.
C'est aujourd'hui que doit se tenir le procès de François Fillon, 3 ans après le Penelope Gate qui avait pulvérisé sa campagne présidentielle.
L'ancien Premier ministre doit comparaître avec son épouse devant le tribunal de Paris pour des soupçons d'emploi fictif de Penelope Fillon. Le procès s'annonce retentissant. Il devrait toutefois être reporté en raison de la grève des avocats.
Autre procès d'envergure aujourd'hui, celui de Julian Assange, le fondateur de Wikileaks.
Il comparaît devant la justice britannique. Il va tenter d'échapper à une extradition vers les États-Unis. Il risque jusqu'à 175 ans de prison pour avoir publié des milliers de documents américains confidentiels. En Iran, les résultats des élections législatives sont attendus dans la journée.
Et la seule certitude, c'est la participation qui a été extrêmement basse, à peine 42%.
Jean-Sébastien Soldani, vous rentrez tout juste de Téhéran. Les conservateurs devraient sortir largement vainqueurs. Quels avantages peuvent-ils tirer d'une éventuelle victoire ?
Eh bien, le scénario le plus probable, c'est qu'ils s'en servent pour préparer l'avenir. D'abord, pendant l'année qui vient, le Parlement conservateur risque d'étriller le président modéré Hassan Rouhani. Les députés pourront faire peser sur ses épaules toutes les difficultés de l'Iran, lui faire payer aussi la signature de l'accord nucléaire aujourd'hui moribond. Une stratégie d'usure, commente un observateur local, pour préparer le terrain de la présidentielle de 2021, laissant un boulevard au candidat de la ligne dure. Une fois un conservateur installé, l'intérêt serait cette fois à plus long terme. L'ayatollah Khamenei a 80 ans et il faut préparer sa succession. Le prochain guide suprême n'aura pas son aura, encore moins celle de Roménie. Mais s'il a à ses côtés un président conservateur fort, élu par un large score, il pourra alors mettre le nouveau guide suprême sur les rails et ainsi mieux assurer la survie du régime.
Et dans un instant, nous reviendrons sur le 200e but d'Edinson Cavani pour le Paris Saint-Germain.
Edinson !
Europe 1, il est 7h11, la suite du journal, Carole Ferry, Mathieu Béliard.
Mais tout de suite, nous nous intéressons à l'explosion du coût des traitements contre le cancer.
C'est vous, David Kayat, qui avez lancé l'alerte hier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes cancérologue à l'origine du plan cancer de 2003 et vous vous inquiétez, le coût des traitements est passé de 20 milliards en 2004 à 28 milliards en 2017. Selon vous, ça s'explique comment ? C'est la hausse du nombre de malades, la faute des laboratoires ?
Non, c'est la conséquence d'un certain nombre de facteurs. D'une part, le nombre de cas de cancer qui ne cesse d'augmenter partout dans le monde, mais notamment en France. Juste pour vous dire, en 2000, il y avait 280 000 nouveaux cas de cancer en France. L'année dernière, il y en a eu presque 400 000. Deuxièmement, le fait qu'un certain nombre de malades atteints de cancer vivent d'une façon chronique avec leur maladie aujourd'hui, vivent très longtemps et donc ont des traitements très longs. Et enfin, troisièmement, on a fini l'époque de la création, de l'invention de nouveaux médicaments du cancer à partir de la chimie. Maintenant, les médicaments sont découverts à partir de ce qu'on appelle les biotechnologies, c'est-à-dire ce sont des médicaments qui se rapprochent
plus
de l'humain,
complexe.
Qui se rapprochent, voilà, qui essayent d'être très personnalisés, malade par malade, mais qui coûtent 10, 20, 100 fois plus cher.
Mais professeur, je suis ravi que vous soyez en direct avec nous ce matin dans le journal de 7h, parce que j'ai l'impression que c'est le pendant de bonnes nouvelles. Vous nous dites on vit mieux avec le cancer, on le soigne mieux, la recherche a fait énormément de progrès, mais le pendant, c'est que ça va coûter beaucoup plus cher.
Ben, c'est-à-dire, c'est une bonne et une mauvaise nouvelle. On a vu le nombre de cas a doublé. Pour autant, la mortalité par cancer en France est restée la même entre 2000 et 2020 ou 2019.
Mais difficile donc, de s'en plaindre.
Donc, on ne s'en plaint pas. Le problème, c'est réfléchir un petit peu à l'avenir. Avec une augmentation aussi rapide des dépenses liées au traitement du cancer, à la prise en charge du cancer, il est clair qu'on ne va pas pouvoir continuer comme ça pendant très longtemps. À un moment donné, on va se trouver face à un précipice économique. Et aujourd'hui, se pose vraiment pour les cancérologues la question de l'accessibilité. Est-ce qu'il y aura vraiment des traitements pour tout le monde ou est-ce qu'on va aller vers une médecine à deux vitesses ? Et ça, c'est quelque chose qu'en ce qui me concerne, je ne souhaite pas.
Vous préoccupe en tout cas quand c'est le cancérologue David Kayat, l'alerte de David Kayat ce matin en direct dans le journal de 7h sur Europe 1.
Une nouvelle arme économique française pour protéger le capital de nos grands groupes. C'est votre éclairage éco ce matin, Nicolas Barret, bonjour.
Bonjour Carole.
Alors le nom de cette nouvelle arme, c'est l'Ague d'argent. Il s'agit d'un fonds de plusieurs milliards d'euros.
Oui, ça fait des mois que BPI France peaufine ce projet, élève de l'argent auprès de gros investisseurs, des assureurs, des grandes familles et même des fonds souverains étrangers. Bruno Le Maire annoncera d'ailleurs tout à l'heure un accord avec le prince héritier d'Abu Dhabi. Les Émirats ont accepté en effet d'investir 1 milliard d'euros dans ce fonds qui prendra des participations de quelques pourcents dans des grands groupes cotés français afin en quelque sorte de planter un drapeau tricolore et d'envoyer un message pour que ces groupes conservent leur ancrage français car en fait beaucoup de grandes sociétés du CAC 40 et au-delà, je pourrais vous citer Danone, Schneider, Saint-Gobain, Pernod Ricard, etc. ont un capital éparpillé et sont donc à la merci de fonds étrangers dits activistes qui peuvent tout faire basculer.
C'est pas forcément si mal, non ?
Non, mais à condition que ça ne débouche pas sur un démantèlement ou sur une prise de contrôle. Dans les autres pays, ce sont des fonds de pension qui assurent la stabilité du capital des entreprises. Mais en France, nous n'en avons pas. Donc c'est BPI France qui fait le job, comme dit souvent son patron Nicolas Dufourcq. Le fonds Lac d'Argent sera donc opérationnel dans les semaines qui viennent. Il vise 10 milliards d'euros. C'est une goutte d'eau par rapport à des fonds étrangers qui pèsent parfois des centaines de milliards de dollars. Mais on l'a vu dans des sociétés comme PSA ou Valeo, il suffit parfois d'une goutte d'eau pour stabiliser le contrôle et le destin d'un grand groupe dans des moments difficiles. C'est le but.
C'était l'éclairage de Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, le journal des Échos, dans lequel vous retrouvez ces informations que vous détaillez ce matin sur Europe 1.
En foot, le match PSG-Bordeaux a été marqué par le 200e but d'Edinson Cavani lors de la 26e journée de Ligue 1 hier soir. Paris s'est imposé 4-3. Mais bien sûr, c'était cet exploit de l'attaquant parisien qui a marqué la soirée, Julien Froment. Edinson !
C'est magique, on a la chance d'avoir un joueur comme ça, c'est magnifique, merci à vous.
La 25e minute de jeu, les 47 000 supporters du Paris Saint-Germain se lèvent comme un seul homme pour célébrer leur idole Edinson Cavani. Une banderole est déployée en virage Auteuil. 200 buts marqués, ton histoire à jamais gravée. L'Uruguayen qui a failli quitter le club cet hiver est apparu très ému à la fin du match.
C'est spécial. Moi, c'était un mois difficile pour moi, sincèrement, très, très difficile, mais je suis ici. Pour continuer mon aventure ici à Paris, je suis content, je suis fier. Je vais continuer à donner le maximum jusqu'à le dernier jour que j'étais ici. Alors, c'est un moment magnifique pour moi.
Ce 200e but tombe à point nommé. C'est un parfait contre-feu pour masquer une soirée lunaire côté parisien. Erreur improbable du gardien Rico, carton rouge pour Neymar, les sifflets contre l'entraîneur Thomas Tuchel. Ce 200e but, c'est aussi une lueur d'espoir pour le PSG. Edinson Cavani a montré l'état d'esprit que l'équipe devra impérativement afficher le 11 mars prochain pour espérer éliminer Dortmund en Ligue des Champions.
Et puis notez-le, Thiago Silva, le capitaine du Paris Saint-Germain, le défenseur est sorti sur blessure au début du match. Pas de très bon augure tout cela, quelques jours, une dizaine de jours de PSG Dortmund. Tiens, puisqu'on parle de Ligue des Champions, notez-le bien, mercredi soir, soirée spéciale sur Europe 1, Lyon-Juventus de Turin. Il n'y a pas que le PSG en Ligue des Champions, il y a aussi l'Olympique Lyonnais et ce sera à suivre, à vivre en direct et en intégralité, mercredi soir sur Europe 1. Merci Carole Ferry.
Merci Mathieu.
Un nouveau journal à 7h30, ce sera avec Hélène Zélani bien sûr, 7h17.